Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus.
8h47, les grands débats ce matin, Lydia Guirous, Elisabeth Lévy, vos appels 0826-300-300, ça tombe bien parce que c'est le même numéro de téléphone pour notre cadeau du jour. Puisque nous fêtons Noël, et qui dit Noël, dit cadeau forcément, et pour recevoir ces cadeaux, bah, il nous faut des récipiendaires. Et c'est Christophe qui est avec nous, bonjour Christophe.
Bonjour Christophe.
Bonjour Cécile, bonjour Patrick.
Non, c'est Benjamin ce matin.
Vous
mais oui, il est un petit peu souffrant ce matin.
La voix est moins grave.
Oui, c'est vrai, exact.
J'y travaille quand même.
Benjamin, faites-nous une imitation de Patrick.
Oui, c'est Cécile.
Patrick, quand il vous parle, il fait. C'est pas Patrick.
Bonjour Benjamin.
Alors, on n'attend pas Patrick.
Bravo à vous en tout cas.
Christophe, vous nous appelez d'où exactement?
De Villeneuve-les-Béziers dans le 34.
Ah, dans le 34. Et quel temps fait-il?
Oh, ben il fait frais, mais ça va, beau, un joli soleil, un peu de brouillard, nickel.
Est-ce que vous voulez savoir ce que vous avez gagné?
Ah, bien sûr.
De la gourmandise, parce que vous avez gagné une très grosse, belle boîte de chocolat offerte par Nougalet. On va vous régaler pour les fêtes de fin d'année. On est ravis de vous l'offrir. Vous nous écoutez depuis longtemps, Christophe?
Ah oui, très longtemps. Oui.
Voilà.
De très bonnes années. Oui, il faut ça change. Il y a même des présentateurs qui changent. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait très longtemps. Voilà. Vous êtes fidèle depuis un petit moment, quand même, vous.
Oui. Ça commence à dater maintenant. Ça fait 4 ans.
Ça commence quelques années.
Oui, voilà. C'est ça. Dites-moi que je ne les fête pas. Faites-moi plaisir.
Comment ?
Dites-moi que je ne les fête pas, ces
attention,
années.
Attention, Christophe.
Vous ne faites pas vos années, madame de Ménibus. La fille qui demande des cadeaux aux gens à qui elle offre des cadeaux. Merci en tout cas, Christophe, de nous avoir appelé
Merci
ce matin.
Merci à vous, Christophe.
On vous souhaite, bien sûr, de très jolies fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à nous rappeler. À très bientôt, Christophe, pour cette boîte.
À très bientôt.
Offerte par les chocolatiers Nougalet. Restez avec nous. Tout de suite, les grands débats du matin. Lydia Guirous, Elisabeth Lévy, elles sont en forme, comme vous, au 0826-300-300.
Et vous nous appelez bien sûr pour agir à l'actualité avec nous, donc Lydia Guirous qui nous a retrouvés. Puis Elisabeth Lévy, je voudrais tout d'abord qu'on revienne un petit peu. Lydia Guirous en parlait tout à l'heure sur ses propos d'Anne Hidalgo le week-end dernier, qui a comparé les langages des années 30 contre les juifs à celui qui est appliqué aujourd'hui aux musulmans. Je sais que ça vous fait beaucoup réagir aussi, Elisabeth Lévy.
Oui, alors d'abord, merci à Lydia. Un tout petit désaccord, parce que Lydia semble penser que ce genre de discours marche sur les islamistes et pas sur les musulmans. Alors bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait une frontière nette quand les études montrent en réalité une imprégnation islamiste, un islamisme d'atmosphère, dirait Gilles Kepel, qui est assez largement partagé. Mais surtout, je crois que flatter la fibre victimaire, ça marche sur beaucoup de gens et ça marche sur beaucoup de musulmans, malheureusement, beaucoup de nos compatriotes, si vous voulez, qui, comme beaucoup de Français d'ailleurs, sont tout à fait prêts à écouter dès qu'on leur dit qu'ils sont des victimes et dès, si vous voulez, qu'on donne une espèce de responsable, dès qu'on leur désigne un responsable à ce qui pourrait ne pas aller dans leur vie. Donc ça, c'est un petit désaccord, mais pour l'essentiel, merci Lydia, vous avez dit évidemment l'essentiel. Je voudrais ajouter une chose, si vous voulez, c'est que cette comparaison abjecte qui avait d'ailleurs été faite aussi, vous avez cité des gens, mais elle a été faite aussi par Edoui Plenel très tôt. Hein. C'est son fonds de commerce dans son livre, vous le connaissez, hein, Lydia, son livre pour les musulmans. Je me demande si Claude Ascolovitch, qui fait la revue de presse sur France Inter, ne l'a fait pas aussi. Je voudrais y ajouter juste une chose. Ce qui est abject dans cette comparaison, c'est que dans le fond, dans les années 30, beaucoup de gens déniaient aux juifs, même avant les massacres et même avant les déportations, beaucoup de gens déniaient aux juifs la capacité d'être français. Hein, Maurras disait, est-ce que les juifs peuvent vraiment comprendre Proust? Est-ce qu'ils peuvent comprendre la culture française? Sartre répondait d'ailleurs, Racine est ma langue et mon sol. Pour une fois, on peut avoir raison avec Sartre. Qu'est-ce qui se passe avec les musulmans aujourd'hui? Dans certains cas, on leur demande d'être plus français, c'est-à-dire, oui, de renoncer à quelque chose, peut-être de leur culture d'origine, ou en tous les cas de le garder pour la sphère privée. On leur dit jamais, vous ne pouvez pas être français. Parce que la France, précisément, c'est ce pays que dont tout le monde peut devenir citoyen, dont tout le monde peut embrasser la culture. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Ça me semble être une différence très opérante aujourd'hui. Et quant à Madame Hidalgo, vous avez dit ce qu'il fallait dire, ce qu'il faut dire, ma chère Lydia, c'est que ça ne lui portera pas chance et qu'il y a une sorte de morale là-dedans. Je veux dire, ça ne va pas la faire monter.
Ouais. Alors justement, Lydia Guirous, par rapport à ça, c'est que quand on voit dans les sondages où elle se situe actuellement, on a du mal à imaginer que ça puisse marcher finalement. Et puis, on l'entend finalement sur un discours comme ça, ça ne prend pas.
Non, ça ne prend pas. Elle est à 3% et je pense qu'elle peut même descendre davantage. c'est la stratégie du désespoir, je pense, pour Anne Hidalgo. Et du coup, elle se vautre dans des facilités, dans le clientélisme. Et il me semble que ça ne prend pas. Et quand je dis qu'elle prend les musulmans pour des idiots, je ne parle évidemment pas de ceux qui sont imprégnés par les discours islamistes et par cet islamisme d'ambiance, mais de ceux qui ont gardé, qui sont attachés aux valeurs de la République et qui sont totalement sécularisés. Je trouve que la gauche s'est totalement perdue, elle a trahi ses valeurs. C'est ce que je disais dans l'édito. Et en fait, c'est saturé sur le créneau wokiste, le créneau indigéniste. Il y a une saturation à gauche. Il y a déjà Europe Écologie Les Verts. Il y a déjà la France Insoumise. Je ne comprends pas qu'Anne Hidalgo choisisse cette stratégie-là. J'espère que le résultat sera encore en dessous des 3% pour envoyer un message à ceux qui restent encore à gauche.
Très rapidement,
Dernière phrase, surtout après, si vous voulez avoir pris ses airs de poule outragée pour nous dire que la manipulation de l'histoire, c'était Zemmour, évidemment, c'est affreux, c'est pas bien, mais que fait-elle? Non mais vraiment, là, je dois avouer qu'avec
Zemmour,
Madame Hidalgo, j'ai plus de surmoi, si vous voulez, parce que la façon dont elle gère Paris me rend dingue. Et voilà.
C'est vrai qu'elle répond à une
manipulation.
Elle répond, elle souhaite dénoncer une manipulation de l'histoire par Éric Zemmour en répondant elle-même par une manipulation de l'histoire. Et c'est tellement insultant pour les Juifs de France qui ont des membres de leur famille qui ont péri dans la Shoah. C'est d'ailleurs le président du CRIF a réagi hier en disant que c'était scandaleux, que c'était une forme de falsification de l'histoire qui était totalement indigne.
Alors, sur les réseaux sociaux, on a des pros Anne Hidalgo, hein, et JVHVD nous dit non, pas du tout, elle a eu le courage de dire la vérité, le nier, c'est être favorable au racisme. Ne soyez pas systématique non plus, ce n'est pas les religions qui sont à remettre en cause, mais ceux qui les utilisent pour inquiéter les autres.
Et puis on est avec 0826 300 300,
avec Sabine qui nous appelle de Gignac.
Bonjour Sabine.
Bonjour messieurs dames.
Et bienvenue sur ce radio. Vous voulez réagir d'ailleurs à ce sujet, je crois bien.
Réagir surtout, oui, par rapport au tag du Mont-Valérien, par rapport à ce qui se passe actuellement.
Sur les tags qui a été tagué, le mur, justement, avec ce gros tag anti-pass, oui.
Oui, soi-disant anti-pass. Après, est-ce que ce sont des anti-pass vraiment? On le saura peut-être jamais ou peut-être un peu plus tard. Je me reconnais pas du tout dans ces gens-là, même si je suis contre le pass sanitaire moi-même. Je trouve, comme je disais ce matin à des collègues, que ce sont des débiles qui ont fait ça, quoi. Ça peut pas être des gens intelligents, c'est une certitude. Ensuite, c'est vrai que c'est un débat qui serait intéressant parce que quand on connaît ce qui s'est passé, quand on sait les résistances qu'ils ont fait, mon grand-père a failli être, il était condamné à mort pendant la guerre, il s'en est sorti miraculeusement. Je suis anti-passe, mais de là à écrire des débilités pareilles sur un monument historique, je trouve ça débile.
On parlait de la notion de l'histoire, justement de manipulation de l'histoire, on est en plein dedans aussi là-dedans, et c'est Guy Carlier qui en parlait aussi. Si vous avez raté Carlier Libre tout à l'heure, vous réécoutez sur sudradio.fr ou sur YouTube. Effectivement, c'était un peu ce qu'il disait là-dessus. Merci beaucoup en tout cas pour votre message, Sabine. Merci à vous. Vous continuez de nous appeler 0826 300 300. On continue bien sûr ces débats juste après le flash de 9h avec vous, Elisabeth Lévy. Et puis avec vous pour le tout début, Lydia Guirous. Merci à vous. Allez, à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus.
Et juste avant la suite du Grand Matin, vous savez quoi, on va partir à cheval vous offrir des cadeaux ce matin, parce qu'on a encore des cadeaux à vous offrir. Vous allez nous appeler au 0826 300 300. Et tiens, Lydia, donnez-moi un chiffre entre 0 et 20.
18.
18e appel au standard, 0826-300-300 pour vous offrir encore des cadeaux sous le sapin de Noël Sud Radio.
Il est lourd ce colis.
Ah, celui-là, il est un peu lourd.
Il est un peu lourd.
Bon, voilà. Mais écoutez, on dit rien, on ne sait pas. Noël approche, oui. Et restez avec nous, on en parle dans un instant. Et puis on reviendra sur une immersion sidérante au cœur de la prostitution 2.0. Soizic Belin, qui est une journaliste, qui est allée, qui est devenue prostituée.
Pendant un an. Témoignage complètement sidérant, vous le disiez, Cécile. Elle sera avec nous dans quelques minutes, dans une dizaine de minutes maintenant. Mais tout de suite, on poursuit justement nos grands débats du matin avec cette interview d'Emmanuel Macron qui a déjà été enregistrée, qui sera diffusée demain soir sur TF1 et LCI. Ça provoque un gros tollé du côté des oppositions, Lydia Guirous, où on critique pas mal finalement. Alors non seulement le choix de la date, parce que c'était Valérie Pécresse qui devait être sur BFM demain soir, finalement ça a été reporté. Et puis on critique aussi Emmanuel Macron qui ferait campagne finalement alors qu'il est toujours président de la République. Il n'a pas encore annoncé officiellement sa candidature. Vous-même, ça vous choque, ça vous surprend, Lydia Guirous?
Non, c'est de bonne guerre. Et puis Emmanuel Macron finalement fait exactement ce que d'autres présidents de la République ont fait, c'est-à-dire qu'il est président jusqu'au bout. Et en parallèle, il mène campagne, en tout cas il défend son bilan. Nicolas Sarkozy, François Mitterrand et d'autres l'ont fait de cette manière-là. Je pense que voilà, c'est de bonne guerre et les opposants qui critiquent cela, s'ils étaient présidents, feraient la même chose lorsqu'ils sont présidents sortants, par exemple d'une région, ils font à peu près la même chose également. Donc c'est de la stratégie politique.
Et bien justement, on en parle avec notre journaliste Adeline Divou qui nous a rejoint. On va faire le point justement là-dessus pour savoir un petit peu si ça a été le cas par le passé, notamment des annonces de candidature plutôt tardives. Ils repoussent l'annonce de leur candidature assez tard en général.
Oui, alors certains, très tard même, donc en 1988, François Mitterrand, président depuis 1981, annonce en mars qu'il est candidat à l'élection présidentielle. On se souvient aussi de Jacques Chirac en 2002, il avait attendu le 11 février pour se déclarer. Mm-hmm. Une annonce pour le moins surprenante, déplacement à Avignon, il avait répondu à la question de Marie-Josée Rouague, la maire. Écoutez.
Je vous l'ai dit, vous m'avez posé une question directe et franche. Eh bien, j'y répondrai dans le même esprit. Oui, je suis candidat.
Même schéma, 10 ans plus tard, en 2012, Nicolas Sarkozy avait attendu le 15 février pour annoncer qu'il voulait briguer un second mandat au JT de TF1 cette fois-ci.
Et là, j'imagine, en tout cas, sur ces exemples-là, déjà, il y avait des critiques aussi.
Notamment, Sarkozy, on lui a reproché de tenter d'échapper à son bilan et d'utiliser les mêmes phrases et exemples que les autres avaient entendus depuis des mois précédant l'annonce de sa candidature. Je ne peux pas mettre ce pays en situation d'avoir un président candidat pendant des mois interminables, c'était alors défendu, Sarkozy. Même constat aujourd'hui pour Emmanuel Macron, ça agace ses opposants. On l'accuse de partir à la chasse aux voix avec les moyens de l'Élysée. Le chef de l'État qui a de son côté défendu son souhait de diriger jusqu'au dernier quart d'heure.
Merci beaucoup Adeline Divou. On remercie Lydia Guirous qui va nous quitter. On poursuit justement, on conclut ces débats avec vous, Elisabeth Lévy, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Adeline Divou finalement et Lydia Guirous. C'est une bonne guerre un petit peu cette campagne alors qu'on est encore président et qu'on n'a pas encore annoncé qu'on était candidat à sa propre succession.
Chaque campagne, la réalité c'est qu'il n'y a pas de bonne solution institutionnelle. On voit bien, si vous voulez, que effectivement ça n'est pas totalement fair play pour les autres candidats. Le président dispose d'un petit avantage, mais d'un autre côté l'argument de dire je suis président, je vais pas m'arrêter de présider est tout à fait légitime aussi. Donc si vous voulez, ça me paraît pas non plus, je ne crois pas que c'est là-dessus que vont se jouer les élections en fait. Je ne crois pas qu'on gagne les élections parce qu'on a ce petit avantage. On peut, en revanche, l'avantage du président sortant, qui est présidentiel justement, il se situe ailleurs. Maintenant, oui, c'est pas tout à fait fair-play comme façon de faire, mais c'est comme ça qu'on fait depuis toujours. Il y a pas, voilà, Donc, bon, si vous voulez, il y a beaucoup de rituels là-dedans. C'est-à-dire, tout le monde s'énerve rituellement. Et comme l'a très bien dit Lydia, si ces gens étaient élus, ils feront. Si ces gens sont élus, ils feront exactement la même chose. Cela dit, j'avais un truc amusant à vous raconter.
Oui, allez-y.
Je viens de recevoir un tweet. Je crois que, comme dit un de mes amis, on a perdu l'Allemagne. Figurez-vous que Santa Claus a été arrêté sur un marché allemand parce qu'il ne portait pas de masque. Donc je tiens à vous dire qu'il n'y a pas que chez nous, si vous voulez, qu'on devient dingue avec les mesures sanitaires.
On arrive à distinguer le masque de la barbe blanche, finalement. C'est
voilà,
ça.
Donc le Père Noël n'a pas de masque et ça c'est vraiment très mal.
Ouais,
ça, c'est pas mal. Bien. C'est pas bien. Juste pour alors pour relancer, désolé pour Santa Claus, hein, on pense à lui forcément, mais parce que il y a aussi la polémique sur cette prise de parole demain d'Emmanuel Macron, parce que voilà, on a Valérie Pécresse qui monte dans les sondages, qui s'apprêtait à faire une interview sur BFM le soir même. Ça a été finalement reporté puisque ça allait avoir lieu au même moment. Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie aussi là-dessus d'Emmanuel Macron? C'est quand même pas très fair play, quoi. Ou alors ça en dit beaucoup sur l'inquiétude qu'on a du côté de la majorité du camp présidentiel par rapport à Valérie Pécresse.
Bah vous avez parfaitement raison sur les deux points, cher Benjamin. Un, c'est pas très fair play. Deux, ça prouve l'inquiétude qu'on a par rapport à Pécresse. Et trois, ça va être compliqué de faire ça pour tous les candidats, si vous voulez. Il ne va pas pouvoir, effectivement, si vous voulez, avec la politesse, il y a une expression qui dit, brûler la politesse, voilà, pardon. Il ne va pas pouvoir brûler la politesse à tous les candidats. Donc, c'est pas très élégant, mais si vous voulez, l'élection présidentielle, c'est pas un concours de beauté, quoi.
Oui, on en a déjà parlé.
Et d'ailleurs, même dans les concours de beauté...
Oui, on est capable aussi de ne pas être très fair play, ça c'est sûr. C'est
vrai. Voilà.
Ça c'est clair.
Donc bon.
Merci beaucoup.
Mais vous
en
avez
tout
raison.
Cas, merci à vous,
merci à
Elisabeth
vous.
Lévy, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. On vous retrouve bien sûr demain. À demain, Elisabeth. Allez,
avec
9h.
Joie.
Avec joie, bien sûr. 9h11 sur Sud Radio. Et je crois qu'on a.
Il y a une heureuse. Elle s'appelle Sophie. Elle nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Sophie.
Bonjour Sophie.
Bonjour, comment allez-vous?
Eh ben nous, très bien. Et vous?
Bah oui, mais Patrick Roger, il n'a pas l'air d'être terrible.
Non, ben... Écoutez, il reviendra demain, Patrick Roger, ça va un petit peu mieux.
Mais j'espère que ça va être excellent.
Mais oui, mais bien sûr que ce sera excellent. Mais on lui a demandé de rester un peu plus longtemps couché, parce que comme ça, il se remet très bien. Et demain, il sera en grande forme et il sera avec nous. En tout cas, je vous remercie pour lui. Sophie, merci d'avoir joué avec nous. Et vous savez ce que vous avez gagné?
On va
regarder ensemble ce que vous avez gagné.
On ouvre le cadeau.
Et on va ouvrir le cadeau ce matin. Et vous avez gagné un téléphone, puisque vous avez gagné un Samsung A51 reconditionné, Sophie.
Bravo.
Bah, c'est super, mais vous savez, je ne suis pas une championne dans le domaine de ce genre d'appareil.
Vous allez avoir un beau téléphone. Vous allez pouvoir faire plein de choses avec ce téléphone et vous allez apprendre avec la petite notice. On va tout vous expliquer, ou alors vous allez l'offrir peut-être.
Autour de moi, ils ont tous ce genre d'appareil, mais c'est moi qui suis un petit peu à la traîne.
Et ben voilà, comme ça au moins vous serez au bout
expliquer.
Du jour.
Voilà.
Vous aurez un beau téléphone tout neuf avec plein de fonctions à l'intérieur, en tout cas avec Sud Radio et Cash Express. Hein, on est ravis de vous avoir offert ce cadeau. Vous savez, Cash Express est le spécialiste de l'achat-vente aux particuliers de produits. On est ravis de vous avoir offert ce cadeau et on vous souhaite de jolies fêtes, Sophie.
Et ben moi, je vous souhaite aussi de jolies fêtes et je trouve que Sud Radio... C'est une radio formidable.
On vous a fait un cadeau, vous en avez fait un.
Ah voilà, avec des auditeurs formidables.
Merci beaucoup en tout cas. Et bonne fête.
L'ascenseur, il monte et il descend.
Et voilà, et ben, tant mieux qu'il monte. Et montez dedans avec nous et on montera avec vous. Merci beaucoup Sophie de nous avoir rappelé.
Jusqu'au ciel.
Et ben, très bien, très bien. On vous souhaite de jolies fêtes et merci de votre fidélité au Grand Matin Sud Radio et à Sud Radio en général. Dans un instant, on va revenir sur une immersion sidérante au cœur de la prostitution 2.0. Une journaliste qui est elle-même devenue Escort Girl, pour comprendre ce métier. Elle sera avec nous dans un instant. Elle s'appelle Soisic Belin. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus.
Il est 9h16, merci d'être avec nous pour un moment important. C'est une immersion sidérante, on vous le disait, au cœur de la prostitution 2.0. Pour en parler ce matin, Soizic Belin qui est avec nous. Bonjour, merci de votre témoignage. Le jour où je suis devenue une escorte 2.0 aux éditions Albin Michel.
Bonjour Soizic Belin et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio. Effectivement, enquête assez incroyable avec un choix qui l'est autant, puisque c'est l'immersion. C'est le choix que vous faites d'habitude pour vos enquêtes, mais là, quand même, sur la prostitution, j'imagine que vous avez peut-être mis du temps avant de vous dire « je vais le choisir de cette manière-là », en tout cas de l'étudier.
J'ai maturé, évidemment, la question longtemps avant de me lancer. Au départ, le but, c'était juste d'étudier le rapport entre les clients et les travailleuses du sexe, par les messages en fait qu'elle pouvait recevoir, les demandes. C'était s'arrêter vraiment à quelque chose de très soft. Et puis j'ai senti qu'il fallait aller plus loin, notamment parce que la plupart du temps, quand vous échangez avec des travailleuses du sexe, vous avez des fins de non-recevoir en fait. C'est vous êtes journaliste, vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas vous mettre à notre place, arrêtez de parler à notre place. Et donc à un moment, pour être légitime, pour moi, il n'y avait qu'une seule solution, c'était de...
D'en devenir une, voilà, en fait, c'est lancer. Ça. Et combien de temps, justement, entre le moment où vous discutez, le moment où vous prenez conscience, enfin, en tout cas, vous prenez la décision d'y aller, ça met combien de temps et qu'est-ce qu'on regarde autour de nous, le pour, le contre
Ça prend quelques mois pour passer le pas, quelques semaines entre les premiers messages, les premières... travaux, j'appelle ça des travaux sur les échanges et le passage à l'acte. Le pour et le contre, c'est ce que je veux dire.
C'est ce que vous vivez aujourd'hui peut-être.
Le compte, c'est ce que je vis aujourd'hui, effectivement.
D'accord, on en parlera dans quelques instants.
On en parlera, mais en tout cas, beaucoup de choses ont déjà été dites sur la prostitution. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous vous êtes dit « je veux travailler là-dessus » ou « je peux apporter quelque chose en plus, finalement, par mon travail » ?
Pour moi, c'était la loi de 2016 qui... à mon sens, est une véritable problématique. Je discute souvent avec des abolitionnistes.
Sur la pénalisation, du coup.
Voilà, sur la pénalisation des clients.
Des clients, en fait. Avec cette amende de 1500 euros.
C'est ça, qui double, triple.
Tout à fait.
Sur récidive. Mais. C'est-à-dire que les abolitionnistes ont un discours qui je trouve, est posé et je l'entends, en fait. La prostitution fait mal à de nombreuses femmes. Effectivement, moi, j'ai choisi de parler d'un pourcentage très infime de personnes qui le font soit par plaisir, soit sans véritable plaisir, mais quand il n'y a pas de déplaisir. Pour elles, c'est un job comme un autre et ça leur permet d'avoir du temps pour faire autre chose. Soit elles sont artistes, soit elles sont militantes et c'est même des fois une façon de militer. C'est d'elles dont je parle dans ce livre. C'est elles que j'ai voulu, en fait, prendre la carapace. Je me suis mis dans la peau de ces femmes-là. Évidemment qu'il y en a qui souffrent. Évidemment qu'il faut permettre à ces femmes de sortir de cette souffrance et de ce mal-être et de ce métier qui, pour elles, n'en est pas un. Mais pour certaines, c'est un métier. Et je trouve qu'il faut aussi les considérer. Donc
C'est la différence que vous faites, justement, à ce niveau-là, celles qui vont le faire par plaisir, ou en tout cas comme source de revenus, comme véritable travail, c'est ce qu'on pourrait faire, la différence entre une prostituée ou le métier d'escorte, notamment.
Alors,
ou c'est plus compliqué que ça?
C'est un peu plus compliqué que ça. Souvent, quand je parlais d'escorte, et puis au départ, mes amis n'étaient pas au courant, hein, véritablement, de l'enquête. Donc, quand ils ont appris le livre, ils sont restés sur le titre, « Escorte, mais c'est pas très grave, tu n'es pas devenue prostituée ». Si, en fait, l'escorting sur Internet aujourd'hui, on ne va pas se leurrer, ce n'est la plupart du temps pas des jeunes femmes qui vont vous accompagner à des soirées ou à des grands...
C'est ce qu'on comprend généralement. On se dit que finalement, l'acte sexuel n'est pas forcément obligatoire chez les escortes.
Il n'est pas obligatoire, mais la plupart du temps, il est là, en fait.
Comment, alors c'est compliqué, mais peut-être cette question de dire, est-ce que finalement c'est facile de devenir escorte? On s'inscrit sur un site et les clients arrivent
C'est assez facile, c'est assez facile. Alors j'ai été bluffée parce que je me suis inscrite sur deux sites totalement différents. Le premier qui s'appelle Wannonce, qui est un site de petites annonces, un peu comme Le Bon Coin. Mais il est connu que l'onglet rencontre est un onglet un petit peu... En fait, ce sont des rencontres vénales. Donc, je poste une annonce, il n'y a pas de photo, juste un petit détail, jeune fille ouverte à la découverte, à la rencontre, etc. Et là, des centaines de messages. En fait, ça n'arrêtait pas. Alors, beaucoup de fantasmeurs, hein, des gens qui s'amusent à échanger et pour qui...
Qui ne passeront pas le pas.
Qui ne passeront jamais le pas. Et l'excitation réside dans cet échange, en fait, tout simplement. Donc, pourquoi pas, à la limite. Et puis... Je me suis dit que j'allais professionnaliser la chose et m'inscrire sur un site d'escorte. Et là, évidemment, c'est assez facile aussi. Vous mettez quelques photos, C'est contrôlé, évidemment, on vérifie que vous soyez majeur, il faut faire une photo avec votre pièce d'identité, l'envoyer, c'est validé ou pas, mais et tout ceci est gratuit, en fait. Donc, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de barrière, d'une certaine façon.
En quelques heures, c'est bon, vous avez votre profil sur un site d'escorte.
Et avec des expériences, pour le coup, très variées que vous avez connues, parfois surprenantes et parfois plus violentes, plus difficiles.
Mais en fait, je pars du postulat que je fais ça en me mettant dans la peau d'une femme qui le fait en toute conscience, qui n'est pas sous pression. Et même dans ce cas-là, évidemment que les violences sont parfois présentes. Je parle de alors lui, c'est celui qui revient souvent dans les commentaires que je me prends en permanence en ce moment. C'est, je l'appelle Monsieur Citron. Ouais. Cette personne, on avait décidé évidemment qu'il y avait une relation de soumission. Il n'a pas respecté le pacte qui était au départ une soumission soft avec un respect. La véritable soumission se fait avec respect, en fait. Et ces personnes-là ne savent pas ce que c'est que la soumission, la domination, le BDSM.
Non, n'ont pas de limite.
Voilà. N'ont pas de limite. Ils en profitent. Voilà, en fait.
C'est-à-dire que vous avez du coup un pacte au départ, avant même justement de vous rencontrer.
Oui, il y a des échanges, tout est mis à plat. Alors, c'est pas très sexy, dit comme ça, effectivement. C'est pas très naturel.
Non, mais c'est important de le préciser aussi.
Oui, voilà. Mais ces relations ne sont pas naturelles, en fait. Donc, oui, tout est dit au départ, les limites sont posées. Et quand les limites sont dépassées lors du rendez-vous, la question se pose évidemment du consentement. Jusqu'où va le consentement? Si je veux m'arrêter, qu'est-ce que je fais? Si je dis non, oui, je dis non, mais je dois rendre une partie de l'argent. Comment ça fonctionne, en fait? À quel moment le client va me dire, mais attends, mais je t'ai payé, donc en fait on va jusqu'au bout, et toi t'avais pas compris, t'avais pas mesuré l'étendue de mes demandes, et ben tant pis pour toi. C'est très compliqué aujourd'hui.
Mais là on vient à la question, parce que là vous avez la sensation forcément d'être agressé sexuellement, d'être violé, et on se pose toujours la question de se dire, est-ce que finalement enfin, quelqu'un qui vend son corps peut être violé?
Alors, j'aime pas le terme vendre le corps, je préfère louer des prestations à caractère sexuel. Oui, bien sûr qu'elle peut être violée, évidemment, parce qu'à partir du moment où on dit non, même si la personne a été payée en amont, le non, pour moi, suffit à ce que la chose s'arrête. Et la limite, effectivement, si la personne en face a envie que vous lui remboursiez une partie, pourquoi pas, mais le non, c'est la fin du consentement, c'est l'arrêt, en fait, de ce service.
Mais vous avez déjà subi des violences, en l'occurrence, et à ce moment-là, vous avez décidé de ne pas porter plainte. Pour quelle raison? Parce que là, c'est une question qui se pose aussi, de responsabilité aussi par rapport à d'autres travailleuses du sexe.
Alors, pour deux raisons. La première, c'est que j'étais plutôt au début de mon immersion, donc j'avoue que je pense que je serais rentrée dans une... J'aurais porté plainte, j'aurais pas continué mon immersion, et j'aurais l'impression que tout ce que j'avais fait en amont n'aurait servi à rien. Et puis, je lis dans mon livre, j'ai fait une véritable dissociation en fait, entre ce personnage et moi. Et c'est ce qui me blesse aujourd'hui quand je reçois des insultes de la part de personnes que je ne connais pas, qui utilisent mon nom. J'ai l'impression, je ne suis pas schizophrène, mais d'avoir vraiment...
Il y a le rôle que vous jouez finalement, c'est un rôle que vous jouez.
Comme une comédienne en fait, et donc... Je vais porter plainte. Oui, j'ai subi ces violences. Oui, elles étaient violentes pour moi. Soizic, Belin et Cléo, le personnage, évidemment aussi. Mais aller dans un commissariat et porter plainte en mon nom, à ce moment-là, en tout cas, m'aurait posé problème. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je peux le faire. Je peux porter plainte. Il faut que je le fasse, d'ailleurs. Il faut que je le fasse. C'est très important.
À quel moment, au moment où vous commencez cette expérience, vous vous dites, faut que ça dure combien de temps? C'est-à-dire qu'au moment où vous avez l'impression d'avoir eu un panel d'hommes en face de vous assez large, où il y a un moment donné, vous vous dites, je fais ça 6 mois ou 1 an et après j'arrête?
Je me suis dit, je fais ça 6 mois. Et après, je me suis dit, non, 1 an, c'est mieux. C'est plus complet. Je ne veux pas qu'on me reproche d'avoir fait une demi-immersion. De quoi elle parle, celle-ci? Elle s'est immergée 3 mois, alors que nous, c'est notre vie. Je me suis dit qu'1 an, ça avait quand même du sens.
Et vous vous êtes fait des amis? Est-ce que vous avez fait des rencontres de femmes?
C'est un métier assez solitaire.
Ouais.
J'ai essayé d'échanger, alors en tant que journaliste, c'est vrai, pour essayer de comprendre et avoir d'autres témoignages qui viennent enrichir mon livre. Et la plupart du temps, ce que j'avais comme réponse, et c'est là où je trouve qu'il y a un vrai problème, c'était on n'a pas le temps de discuter avec toi, notre temps c'est de l'argent. Mmh. À partir du moment où on considère que le travail du sexe c'est un métier, moi je suis journaliste, mon temps à poser des questions, à faire des interviews, c'est aussi de l'argent. En fait. Donc, si on veut rentrer dans un schéma où le travail du sexe est un métier comme un autre, avec des grosses et des énormes guillemets, On peut pas me répondre ce genre de choses, en fait. On peut me dire j'ai pas le temps, mais pas mon temps, c'est de l'argent. Et c'est des réponses que j'ai eues très fréquemment.
Et quand aujourd'hui on vous disait tu es journaliste, tu ne peux pas comprendre, est-ce que vous comprenez cette phrase, ou est-ce que finalement ce que vous aviez imaginé, finalement c'est la réalité, ou alors vous avez ressenti d'autres choses que vous n'auriez pas pu comprendre si vous n'aviez pas essayé, justement?
Il y a une part de ressenti, effectivement, que j'aurais pas pu comprendre si je l'avais pas fait. Oui. Ouais. C'est même peut-être pas des choses qui peuvent se dire ou s'écrire, c'est des choses qui se ressentent. Et après, évidemment, j'ai une amie qui me disait, mais moi, je n'aurais jamais pu faire ça, alors que sexuellement, elle est plutôt libérée, moi, pas forcément. Et elle me dit, non, moi, j'aurais vraiment senti une atteinte à mon corps, à mon estime. Donc, oui, toute femme ne peut pas être escorte, et peut-être que je ne l'aurais pas compris si je n'étais pas passée par ça.
Sophie Bonin, vous restez avec nous, on le rappelle, journaliste, auteur de Le jour où je suis devenu escorte 2.0 aux éditions Albin Michel. On continue d'en parler justement avec vous dans un instant.
Et vos appels 0826-300-300 si vous voulez témoigner, bien entendu, avec Soizic Belin. Il est 9h27, à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus.
Il est 9h31, c'est un témoignage lourd, forcément, le jour où je suis devenue escorte 2.0. La journaliste Soizic Belin est avec nous. Merci, en tout cas, merci de vous livrer ce matin sur Sud Radio. Vous appelez 0826-300-300. On parle de cette immersion dans ce métier d'escorte. Aujourd'hui, vous en êtes sortie. Psychologiquement, comment vous êtes ?
Psychologiquement, le plus dur aujourd'hui, c'est pas tant de parler du livre, parce que c'était important pour moi, c'est important pour moi d'en parler, c'est un travail que j'ai fait pendant un an, puis après il y a l'écriture du livre, etc. C'est les retours, c'est les insultes permanentes sur les réseaux sociaux, c'est les messages sur mon téléphone, parce que évidemment, je suis journaliste, donc il y a mon CV qui traîne par-ci, par-là, parce que je suis pigiste.
Les réseaux sociaux aussi.
Les réseaux sociaux, enfin, c'est-à-dire qu'en fait, ils vous harcèlent même quand vous êtes chez vous, en fait, dans votre intimité, puisque votre téléphone fait le lien avec l'extérieur en permanence. Et c'est ça qui est assez dur, en fait.
Est-ce que ça veut dire que professionnellement, il y a des gens qui ne travailleront plus avec vous ?
J'espère pas.
Ouais. Non, mais ça aurait...
Oui, je me suis posé la question, mais je sais pas, je me dis qu'on est quand même en 2021, dans une société qui se veut ouverte et compréhensive, et pour moi, c'est un travail de journaliste, Puis même au-delà, enfin, j'espère que demain, si une travailleuse du sexe pour qui c'est véritablement le métier a envie de changer de tout au tout et de devenir, je ne sais pas, journaliste ou n'importe quel autre métier, qu'elle puisse le faire sans que ça pose de problème, en fait.
Qu'est-ce qu'il faut répondre justement à ce harcèlement ? C'est quoi votre stratégie ? C'est je ne réponds pas ?
Je ne réponds pas. Je ne réponds pas, mais j'avoue que c'est lourd. Enfin, ça veut dire qu'ils gagnent en quelque sorte, puisque c'est le but. Le but, ils me le disent, ils sont très clairs, c'est de m'anéantir, que je ne me relève pas, que justement je ne puisse plus travailler, puisque le but, c'est de faire en sorte que mon travail ne soit pas légitime.
Mais est-ce que justement, ce ne serait pas de leur répondre pour justement créer un lien entre ces gens-là, leur expliquer ce que vous avez voulu faire, parce que vous venez quand même au secours des travailleuses du sexe pour exprimer, en tout cas, ou les aider, faire en sorte qu'elles aient une vraie identité, qu'elles aient un vrai statut aujourd'hui en France.
Oui, mais ces personnes-là n'ont pas envie de comprendre, ne cherchent pas. Enfin, ils ont l'impression de devoir apporter une morale, en fait. Comme s'il n'y avait plus de morale, et eux sont les gardiens d'une certaine morale. Donc autant vous dire que les travailleuses du sexe, peut-être qu'ils vont les voir, très certainement, peut-être qu'ils même qu'ils regardent du porno, etc., parce qu'ils me parlent aussi de ce genre de choses, mais pour eux, derrière ces personnes, ce ne sont pas des humains, ce sont certainement des machines, je ne sais pas, puisqu'ils se permettent de les insulter. Ça dit juste leur peur à eux, finalement. C'est pas moi.
Et par rapport à l'expérience que vous avez vécue, ça dit quoi, finalement, aussi de ce qu'on vit actuellement dans la société, des différents clients que vous avez pu rencontrer? On parle beaucoup de tensions, de violences au sein de cette société. C'est quelque chose qui se manifeste peut-être d'autant plus dans ce milieu-là?
Alors, c'est vrai qu'en pourcentage, j'ai pas eu énormément de violences physiques. Peut-être plus psychologique, mais c'est peut-être moi aussi qui me suis sentie violentée par moments, rabaissée, parce qu'il y a beaucoup de clients qui viennent voir des travailleurs du sexe pour les rabaisser, pour se sentir au-dessus, ce qui est un problème de reconnaissance, un problème d'ego, et ils ont l'impression qu'en allant voir ce type de personnes, eux se sentent supérieurs et ça les rassure. Mais après, ça dit beaucoup de choses sur la solitude, en fait. Il y a une véritable solitude, beaucoup viennent pour parler, pour déverser, dans le bon sens du terme.
Sur votre livre, il y a marqué « Girl »,
proposent des escortes. Il y a aussi des garçons qui
le font.
Il
y a aussi des hommes, oui.
On en parle assez peu souvent parce qu'il y a une détresse forcément chez les hommes et aussi chez les femmes. Est-ce que vous les avez rencontrés, ces hommes ?
Alors, j'en ai rencontré un, vous dire, pas beaucoup, oui. Qui justement me parlait de la loi 2016 et de l'impact que ça avait sur lui. C'est-à-dire que les clients baissaient les prix, demandaient à ce qu'on baisse les prix. Donc lui, ça lui faisait un manque à gagner. Et puis, des demandes très peu sécures, c'est-à-dire du sexe sans protection, du sexe sous camsex, en fait, sous drogue, à 4-5 heures du matin, devoir mettre son réveil pour rejoindre d'autres hommes à des soirées qui durent des week-ends entiers, etc. Il me disait, c'est une prise de risque pour moi, mais je ne peux pas le refuser, et je perds de l'argent, et parce que les clients, comme ils sont, c'est eux, en fait, qu'ils sont chassés à cause de cette loi, sont... disons qu'ils négocient les prix, en fait. Ils ont peur.
Mais est-ce que l'image des garçons est aussi dégradée que celle des femmes dans ce métier ?
Ah, je n'aimerais pas m'avancer là-dessus. Je pense pas. C'est peut-être différent. Je sais pas. J'aurais peur de dire des bêtises. J'ai pas envie
Qu'est-ce
de...
qu'on peut faire aujourd'hui pour elles ? Quel statut il faudrait leur donner aujourd'hui ?
Je pense qu'il faut que ce soit reconnu comme un métier. Ça ne veut pas dire qu'on m'a sorti ça aussi. Oui, ça veut dire qu'au lycée, il y aura des filières travail du sexe. Évidemment que non. Évidemment qu'on ne va pas influencer les jeunes filles ou les garçons à devenir travailleurs du sexe. C'est un choix très personnel. Mais oui, il faut que ce soit encadré. Ça éviterait que les femmes qui
les
en
dérives.
Souffrent, justement, toutes les dérives. Il faut qu'il y ait une sécurité sociale aussi. Il faut qu'elles puissent cotiser. Enfin, à un moment, vivre avec de l'espèce en permanence, enfin, c'est pas possible. Vivre avec du cash, comment on fait pour payer son loyer, en fait, en espèces ? Ça voudrait dire qu'on a un propriétaire très sympathique qui accepte parce que de mettre des sommes énormes toutes les semaines à la banque, enfin, énormes, je m'entends, mais enfin, c'est pas viable, en fait. C'est pas un système viable.
Vous êtes justement, au-delà de ça, très critique sur cette loi de 2016 sur la pénalisation des clients. Alors, on l'a compris, ce que vous dites, c'est qu'il faut légaliser, en tout cas selon vous, la prostitution pour qu'il y ait un minimum de protection et voilà, pour ces femmes et ces hommes aussi. Qu'est-ce que vous reprochez au-delà de ça à cette loi de 2016 en elle-même ? Beaucoup ont parlé de l'absence de moyens, pas assez de moyens mis en place. On parle de 1200, 1300 clients verbalisés par an, donc c'est assez peu. Finalement, cette loi-là, elle existe juste voilà, comme ça,
elle est symbolique,
c'est un texte et tout.
Elle est symbolique et elle est hypocrite. Les clients, comment vous voulez aller les chercher ? Enfin, c'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à savoir combien il y a d'escortes aujourd'hui en France, on peut pas faire un quota de clients non plus. On peut pas savoir combien il y a de clients en France. Et puis c'est quoi un client ? C'est une personne qui va y aller une fois, qui va y aller 10 fois. En quoi, dans cette relation entre la travailleuse du sexe et le client, en quoi il y en a un qui est coupable et l'autre qui ne l'est pas ? Enfin, pourquoi il devrait y en avoir un coupable et l'autre non ? Évidemment, je parle toujours là dans un rapport de respect mutuel. Justement, un client m'a dit un jour, est-ce qu'on peut être client, travailleuse du sexe et féministe ?
Oui.
Ah, bonne question.
Oui.
Bien sûr qu'on peut être client et féministe s'il y a un respect de toutes parts, que la jeune femme qui fait ça n'est pas sous contrainte, que lui est dans un respect, qu'il y a un échange monétaire, évidemment. Oui, il peut être féministe.
Est-ce que certains de vos clients ont pu tomber amoureux de vous ?
Oui, ils tombent amoureux. Alors, ça, de manière assez facile. Oui, parce qu'on c'est un personnage, évidemment, qu'on se construit et donc on essaye de correspondre au mieux à leurs attentes. Donc forcément, ils se retrouvent face à une femme qu'ils imaginent totalement
idéale.
Libérée, idéale, qui les écoute, qui est disponible au moment où eux en ont besoin. Oui, c'est la femme idéale sur le moment, à un instant T, et donc ils peuvent tomber amoureux. Mais bon, est-ce que c'est de l'amour ? Est-ce que c'est un coup de cœur ?
Mais je vous demande ça parce que est-ce qu'on peut verbaliser des gens qui finalement souffrent de solitude, souffrent d'un manque de relations sexuelles, souffrent de d'être seuls ? Est-ce qu'on peut vraiment verbaliser ces gens ? Est-ce que c'est finalement pas un échange de bons procédés de se dire que on prend soin les uns des autres ?
Oui. Oui, alors là, on va hurler en entendant
ma
réponse.
C'est
une très bonne question. Et je pense que la réponse, évidemment, dépend toujours de la situation, en fait. Est-ce qu'on est face à quelqu'un qui le fait sous contrainte ou qui le fait par plaisir ou sans déplaisir et de la personne en face, est-ce qu'elle est respectueuse ou pas ? Mais évidemment, ça peut être un échange de bons procédés et verbaliser un client qui ne fait rien de mal, qui vous paye et qui est là, qui déverse sa solitude. J'ai dit à un moment que les hommes pouvaient me faire de la peine. C'était peut-être pas le bon terme. Ce que je veux dire, c'est qu'évidemment...
Vous émouvoir, peut-être.
Voilà. C'est ce que je ressens aujourd'hui. Et parfois, quand je vois certaines personnes... Dans des cafés, par exemple, je travaille beaucoup dans des cafés. Et je regarde autour de moi et je me dis, ça aurait pu être un client. Et je me dis, mais cette personne n'est pas méchante, elle ne fait rien de mal en fait. Personne ne fait rien de mal dans cette situation.
Et avec du recul, quand vous savez tout ce que vous savez aujourd'hui, vous pourriez le refaire pour l'expérience, justement.
Est-ce que je le referais aujourd'hui, sachant... Ouais. Oui, je le referais, oui. Oui.
Oui. En tout cas, merci beaucoup, Sozic, d'avoir été avec nous. On rappelle à Sozic Belin le nom de votre ouvrage, Le jour où je suis devenu escorte 2.0. C'est aux éditions Albin Michel. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre témoignage ce matin sur ce radio. C'est vrai qu'il en faut du courage.
Effectivement. Et dans quelques instants, on va mettre un peu plus de joie puisque Sud Radio fête Noël avec nos invités ce matin. On va vous parler des gueules de rugby. On sait que sur Sud Radio, vous êtes passionné de rugby. Jean-Pierre Paget sera avec nous, auteur de ce livre Gueules de rugby. 2023 joueurs pour 2023.
Eh ben oui,
c'est parfait. Il y a des choses à dire.
Il y a de quoi faire.
Restez avec nous et puis juste après, on parlera cuisine avec un invité, un chef, le chef Enrique Casarrubias qui sera avec nous, chef du restaurant étoilé Oxt dans le Paris 17e. Et on vous parlera menu, on vous donnera des solutions, des idées pour vos repas de Noël. Restez avec nous, on revient dans un instant, il est 9h40.